Nous reprenons cette quatrième lecture de la veillée pascale. Les trois premières lectures sont tirées du Pentateuch, ce que les Juifs appellent la Torah, la loi de Moïse. Et ensuite, nous avons des lectures des prophètes. Et puis, dans les lectures de la veillée pascale, il y a aussi la lecture du livre de Baruch, qui est un texte de sagesse. Il y a deux lectures du livre d'Isaïe, Isaïe 54 et Isaïe 55, et puis le livre d'Ézéchiel au chapitre 36. Alors, pour vous situer ce texte d'Isaïe dans l'ensemble du livre, le livre d'Isaïe commence par une description du péché d'Israël. Une description très, très incisive et puis une invitation à se tourner vers Dieu. Lavez-vous, purifiez-vous, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Et puis, venez et discutons, dit le Seigneur. Donc Dieu, dans cette situation marquée par le péché, une situation qui semble sans issue, le peuple d'Israël qui a la mission de témoigner de la sagesse de la loi de Moïse et qui tourne le dos à la loi de Moïse, Dieu intervient par sa parole et il invite à la conversion. Et il remet Israël devant le choix fondamental. Si vous observez mon alliance, alors vous connaîtrez la vie. Si vous tournez le dos à l'alliance, alors vous marchez vers la mort. Voilà, et puis il y a toute la première partie du livre d'Isaïe où le prophète va parler au roi, il n'est pas vraiment entendu. Et nous le savons par d'autres livres de la Bible, notamment le livre de Jérémie, les livres des rois. Le jugement de Dieu va venir corriger son peuple et Israël va tomber. Israël va être prise d'assaut par les Babyloniens. Le roi est fait prisonnier. On égorge ses fils devant lui. On lui crève les yeux, on le conduit à Babylone. Désormais, il n'y aura plus de roi sur le trône de David à Jérusalem. Israël sera toujours un pays occupé jusque vers moins 140 avant Jésus-Christ avec la révolte des Maccabées. Et la deuxième partie du livre d'Isaïe, au chapitre 40, commence avec un cri de consolation. « Consolez, consolez mon peuple. Son châtiment est terminé. Ça y est, il a payé pour sa faute. » Et la deuxième partie du livre d'Isaïe annonce le pardon de Dieu et le salut pour son peuple. Et c'est dans cette deuxième partie du livre d'Isaïe qu'il y a les chants du serviteur que nous lisons dans la liturgie de la Semaine Sainte avec le quatrième chant du serviteur qui est lu dans la célébration de la Passion le Vendredi Saint. Cet homme mis à mort injustement, qui n'ouvre pas la bouche et qui fait de sa vie un sacrifice d'expiation. Et nous arrivons, après ce quatrième chant du serviteur, au chapitre 54, qui est plein de réminiscences du livre de la Genèse. Alors, je vous laisse simplement lire ce texte, et puis ensuite, nous échangeons. Ça sera court, mais quand même, on pourra partager un peu. Alors, juste la façon dont j'ai disposé le texte, ce qui est mis en italique, c'est ce qui n'est pas lu dans la lecture de la veillée pascale. Mais voilà, c'est important d'avoir l'ensemble du texte. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont arrêté? Et sinon, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui ressort particulièrement de ce texte? C'est réconfortant, oui. Et qu'est-ce qui est exprimé dans ce texte? Pardon? La tendresse du Seigneur.
Une promesse.
Une promesse, où ça? Au verset 9. Ouais, alors c'est une promesse sous forme de serment. J'ai juré. Et donc au verset 9, qu'est-ce qui est évoqué?
Noé.
Noé, que nous rapporte l'événement de Noé?
La colère de Dieu.
Pourquoi la colère de Dieu? Au chapitre 6 de la Genèse, on nous dit que Dieu constate que le cœur de l'homme est profondément mauvais. Et donc, là encore, Dieu ne peut pas rester les bras croisés. Genèse chapitre 6, verset 5, « Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. » Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. C'est un peu étrange, Dieu qui regrette d'avoir fait quelque chose. Autant, en Genèse 1, tout est impeccable dès du premier coup, il parle et cela est, et c'est tout de suite impeccable. Autant, à partir de Genèse 3, il y a un grain de sable, et alors tout s'emballe. La vengeance se multiplie, les deux premiers frères, il y en a un qui tue l'autre, l'homme et la femme sont divisés l'un, et donc au bout d'un moment, le péché s'étale à la face de Dieu, et c'est pas ce que j'avais prévu, c'est pas ce que j'avais voulu. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'efface tout et je recommence. Pardon ?
Ça,
oui, les choses n'ont pas tellement changé, mais en fait, il va pas jusqu'au bout, parce qu'il y a quand même un juste qui trouve grâce à ses yeux, c'est Noé, et donc il sauve Noé, sa famille et puis les animaux quand même, et donc voilà. Donc ce récit nous dit: en soi, l'homme, à cause de son péché, mériterait de disparaître. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il disparaisse. Et donc, à la fin du récit du déluge, il y a l'alliance faite avec toute la création, avec Noé et toute la création, et Dieu promet que jamais plus il ira jusqu'au bout de sa colère, jusqu'à tout anéantir. On respire quand même. On avait une épée de Damoclès qui pesait. Et là, Dieu dit, ben non, cette solution-là, de tout ça, c'est vrai, c'est une solution au mal. C'est une vraie solution au mal. j'élimine celui qui fait le mal et le mal disparaît de la création. Sauf que Dieu ne choisit pas cette solution. Il se dit, ben non, quand même, d'abord, il y a un homme dont le cœur n'est pas complètement mauvais, c'est Noé, et je ne me résous pas à détruire l'homme que j'ai créé. À partir de ce moment-là, Dieu prend acte qu'il y a du mal, que la création ne correspond plus au projet qu'il avait, mais il ne reste pas non plus les bras croisés en disant bah, « de toute façon, je les laisse faire ». Et là va commencer l'histoire du salut avec Abraham. Mais cette référence à Noé, c'est la référence à un jugement qui en soi est juste, mais qui n'empêche pas la tendresse de Dieu d'avoir le dernier mot. Et donc, ce thème de la colère, il est mentionné au verset 9 et déjà au verset 8. « Ma colère avait débordé. » Mais voyez comment Dieu parle de sa propre colère. Au verset 7 et 8, qu'est-ce qui est frappant au verset 7 et 8 ?
Dieu est fidèle, pitié.
Alors, tendresse, pitié, tout ça c'est dans le texte. Est-ce qu'il n'y a que ça ? Abandonné, caché, ça va avec quoi ? Ça va avec la colère. La colère, je t'avais abandonné, j'avais caché ma face, je m'étais caché de toi, j'étais devenu inaccessible pour toi. Mais qu'est-ce qu'il y a encore ?
Mon amour éternel.
Oui ? Alors, amour éternel, et puis qu'est-ce qu'il y a en vis-à-vis ? Alors, il y a quand même des petits mots au verset 7. Un moment. Verset 8. Un moment. Donc, il y a la colère, elle est associée à un moment, la tendresse éternelle. Ça, c'est fondamental. Si vous lisez le psaume qu'on chante après, au verset 6, « Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. » Donc la colère n'est pas l'équivalent de la tendresse en négatif. La colère, elle est située dans le temps. À un moment, elle prend fin. Et la colère de Dieu, dans le livre d'Osée, il dit « Je suis Dieu et non pas homme. » Et donc, je ne vais pas jusqu'au bout de ma colère. Je ne la laisse pas déborder comme ça sans frein. Il y a une limite à ma colère. Elle est limitée dans le temps. Un moment. Un instant. La colère de Dieu, c'est le fait qu'il ne peut pas se résoudre à cette situation de péché. Il doit intervenir. Et il doit aussi corriger son peuple comme un père corrige son enfant. Ou encore, il cache sa face à son épouse. Pendant un temps, il ne va plus lui manifester son amour, parce qu'elle est allée trop loin dans l'infidélité. Mais cela ne dure qu'un temps, et c'est pour que l'épouse revienne vers lui. Et l'épouse a pensé qu'elle était abandonnée pour toujours, mais ce n'est pas ça, c'est un moment. Et abandonnée pour toujours, ça veut dire qu'elle ne peut plus engendrer si elle est abandonnée par son époux. Elle devient stérile. Mais si Dieu lui annonce que non, c'est toujours son épouse, alors elle va encore engendrer. D'où le début du texte, cri de joie, femme stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate en cri de joie et d'allégresse, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car la femme abandonnée n'aura plus d'enfant, aura plus d'enfants que celle qui a son mari, déclare le Seigneur. Et c'est une allusion aussi à Sarah, la femme stérile, mais aussi à toutes les femmes des patriarches, Sarah, Rebecca, Rachel, étaient des femmes stériles, et ce sont les mères du peuple d'Israël. Pardon ? Oui, alors elle a eu 5 maris, oui, c'est encore autre chose. On ne mentionne pas, oui. Oui. Voilà. Et donc, au fond, Israël dans l'épreuve, et c'est un traumatisme. Peut-être que parmi nous, il n'y en a pas qui ont connu l'occupation. Voilà, moi, mes parents me parlaient de l'occupation. C'est un vrai traumatisme d'être occupé par un peuple étranger, de voir sa capitale tomber. Et une capitale qui tombe dans l'Ancien Testament, c'est la ville est mise à sac. Le livre des Lamentations nous raconte ça, c'est très cru et ce sont des horreurs. Et donc ce peuple s'est dit, nous n'avons plus de raison d'espérer. Notre Dieu nous laisse tomber et nous l'avons mérité. Nous l'avons mérité et donc, de toute façon, il n'y a rien à espérer. Et Dieu lui dit, non, 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 c'est un instant, un moment. Si tu reviens vers moi, tout est encore possible. Et tu vas à nouveau engendrer. Et moi, est-ce que je pourrais rejeter la femme de ma jeunesse ? Moi, je suis fidèle. Au chapitre 50, verset 1, Dieu dit, mais montrez-moi l'acte de divorce par lequel j'aurai renvoyé votre mère. Non, pas question. Moi, je reste fidèle à mon épouse. Quelles que soient ses fautes, son péché. Il faut que je lui montre qu'elle est infidèle et que c'est grave d'être infidèle. Il faut que je lui cache ma face. Mais c'est pour un instant. Ma tendresse, elle est pour toujours. Voilà, on va juste lire l'oraison et puis ensuite on va descendre à l'oratoire pour l'Eucharistie. Il faudra se serrer un petit peu dans l'oratoire parce qu'il n'est pas très grand et la chapelle est occupée par l'autre groupe, la grande chapelle. Dieu éternel et tout-puissant, pour l'honneur de ton nom, multiplie la postérité promise à nos pères à cause de leur foi. Augmente le nombre de tes enfants d'adoption. Que ton Église voit dès maintenant se réaliser la promesse dont les patriarches n'ont jamais douté. L'épouse stérile, c'est l'Église. L'épouse du Christ qui ne cesse d'engendrer des enfants par le baptême. Voilà, nous arrêtons là et puis nous allons célébrer le mystère.